Bonjour, bienvenue dans ce podcast consacré à la participation des enfants en famille d'accueil. C'est un des pans de recherche du projet Next, enfants placés en famille d'accueil. On avait défriché cette thématique l'an dernier par un premier podcast et pour aller plus loin, plusieurs intervenantes sont avec nous, à commencer par vous, Gisela Kildev. Vous êtes chercheuse à l'Université de Fribourg, juriste, spécialiste du droit des enfants et de la famille. Bonjour.
Bonjour.
Et avec nous également Michel et Paul Knobler qui ont eux-mêmes été familles d'accueil. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors Gisela Kilde, pour établir de nouvelles connaissances sur la participation, l'idée était notamment d'écouter des enfants au travers d'entretiens. Où en êtes-vous aujourd'hui dans vos recherches?
Alors, quand on a eu le sujet de participation, on a réfléchi comment on va faire la recherche. C'était clair qu'on va introduire le vécu des enfants. Donc, on a tout d'abord, commencer à faire des interviews avec des jeunes. On a pu mener des interviews en allemand, on a eu 14 adolescents, et en français, on a pu avoir 5 adolescents. Ils étaient âgés entre 10 et 18 ans. Donc, on a vraiment une large vue sur le vécu des jeunes, et puis on est en train d'analyser les interviews encore. Ce qui m'a frappé comme juriste, c'est peut-être pour vous pas du tout étonnant, mais pour moi comme juriste, c'était que le système de protection de l'enfant, l'APEA, le juge, la curatelle, ne joue presque pas de rôle dans la vie. Et heureusement, hein, pour les enfants, mais pour moi comme juriste, on essaie de trouver un peu, oui, est-ce que les curatrices sont importantes ou pas? Est-ce qu'il y a une personne de confiance quelque part ou pas? Et on va encore préparer un sondage ouvert à beaucoup, on espère, beaucoup de jeunes auprès des enfants sur leur vue concernant leur possibilité de participer. Donc ça sera la prochaine étape où de nouveau, on va demander plus général sur les questions de participation et les rôles qui ont pu jouer les curatrices, les curatelles ou les personnes de confiance.
Quand on leur parle de participation, c'est facile pour les enfants de décrire leurs attentes, leurs envies, leur vécu autour de cette notion de participation.
Oui, alors on a trois axes. On regarde la participation dans le quotidien. Évidemment, là, ils savent très bien ce qu'ils aimeraient et ce qu'ils n'aimeraient pas. Et voilà. Et on avait la dernière fois, on avait aussi une jeune qui pouvait très bien décrire à quel point elle pouvait bien participer dans le quotidien. Après, on a la participation dans les procédures. Puis on a la participation en cas de crise. Et puis on craint que les jeunes, quand il y a la crise, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui se soucient et que l'opinion des jeunes s'est un peu oubliée. Parce qu'on se dit, faut agir rapidement, on n'a pas tellement le temps et on intègre déjà, j'espère, les familles d'accueil dans une solution et on a beaucoup d'acteurs et on oublie un peu les jeunes. Mais ça, c'est encore à vérifier, je ne sais pas.
Ah, peut-être Michel et Paul sur cette participation ou non des enfants prise en compte. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ce que nous explique Gisela Kildé?
Oui, quand on parle d'une personne de confiance, a priori, la personne de confiance, ça devrait être la famille d'accueil. Nous avons été confrontés, nous aussi, à ce besoin-là, mais plus pour avoir une personne de confiance qui prend la dynamique de la famille d'accueil en mettant l'intérêt de l'enfant en priorité et qui puisse, à un moment donné, soutenir cette unité-là vis-à-vis des différentes institutions qui sont parfois un peu éloignées du cas particulier de cette famille d'accueil-là. Donc, nous avons aussi dans notre expérience exploré des possibilités avec un soutien, un profil juridique qui puisse coordonner ou faciliter, être un facilitateur entre les différents intervenants. Un curateur a énormément de clients, si je peux m'exprimer comme ça. Soutenir l'ensemble famille d'accueil et enfants. Pour synthétiser le besoin et le point de vue, l'intérêt de l'enfant, ce besoin-là, on l'a aussi ressenti. On imaginait aussi que c'était plus un profil du type juridique pour pas en rajouter au débat d'experts.
Gisela Kildé, que nous dit la littérature sur, par exemple, ce qui pourrait être cette personne de confiance? Est-ce que ce serait vraiment pertinent d'en créer une?
Oui, pour la personne de confiance, c'est en fait la loi, plus précisément l'ordonnance sur le placement d'enfants qui prévoit que l'autorité de protection de l'enfant veille à ce que l'enfant placé dans une famille nourricière se voit attribuer une personne de confiance à laquelle il peut s'adresser en cas de question ou problème. Donc c'est pas une invention de notre part, c'est la loi. Et dans la pratique, on peut constater que justement, on n'a pas une idée claire ce que ça peut être. Personne ne sait trop qui pourrait l'être, quel droit il a, quel rôle il joue. Et c'est un peu ça, les points d'interrogation autour de cette personne de confiance qu'on va reprendre et voir ce que les enfants disent et ce que la littérature dit et ce que nous, on pense qui est bien. Donc, il y a quand même quelques littératures qui disent que cette personne de confiance devrait être hors système familial et hors système de protection de l'enfant. Donc, au mieux, ce sera quelqu'un qui n'a pas d'intérêt autre que le bien-être de l'enfant. On cherche vraiment quelqu'un qui n'apporte pas d'autre casque que être la personne qui écoute, qui peut-être explique à l'enfant sa situation hors de tout système. Mais très difficile, bien évidemment, de trouver quelqu'un qui a déjà la confiance de l'enfant et qui peut jouer ce rôle. Et je comprends très bien que les familles d'accueil se voient dans ce rôle. Ils ont surtout aussi la confiance de l'enfant. Mais la question, c'est est-ce qu'ils ne portent pas aussi un autre casque déjà? Et est-ce que le législateur pensait pas tellement aux familles d'accueil. Mais je vois bien, on en a déjà discuté avec des autres personnes, très ouvertes à cette discussion très intéressante, bien évidemment. Et il y a aussi les curateurs qui disent, mais c'est moi la personne de confiance. Et moi, je trouve c'est positif quand il y a plusieurs acteurs qui ont la confiance de l'enfant. C'est très positif pour l'enfant parce que ça veut dire que, en fait, il y a plusieurs personnes qui montrent leurs soucis et leur intérêt à l'enfant. L'enfant peut jamais avoir assez. Mais la loi prévoit autre chose, en plus. Et c'est là où on a plein de points d'interrogation.
Une réaction, un commentaire peut-être de votre part, Michel ou Paul Knobloch, à ce sujet?
La loi, elle parle d'une personne de confiance, mais elle ne définit pas son rôle, si je vous comprends bien. Et c'est ça tout le problème. Parce que c'est, à la limite, c'est du marketing. Il faudrait commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par l'intérieur. Dans un contexte familial, d'accompagnement, d'éducation des enfants, etc., la législation, j'imagine qu'elle définit les parents comme étant, ou elle sous-entend que les parents sont les personnes de confiance, qu'ils soient biologiques, d'accueil ou autres. Donc c'est vrai que quand on a vu ce point-là, on s'est dit c'est quoi? Est-ce que c'est un autre jeune qui a l'expérience, qui est un peu plus âgé? Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce que fait cette personne de confiance? Si on ne définit pas le rôle derrière et un mécanisme que moi je n'imagine pas à ce stade-là, je vois franchement pas ce qu'on peut faire avec cette notion de personne de confiance. En plus, si cette personne de confiance a un rôle de facilitateur, encore une fois, par rapport à des questions complexes pour soutenir l'enfant dans sa famille, qu'elle soit biologique ou d'accueil, ok. Autrement, j'ai de la peine à avoir une suite concrète.
Moi, je trouve votre idée de facilitateur super intéressant. Je suis pas tout à fait d'accord qu'il doit être un juriste. Il doit bien sûr avoir des connaissances juridiques, ce sera toujours utile. Mais pour moi, ça doit pas être un juriste. Ça peut aussi être une autre personne formée dans le socio-éducatif qui connaît très bien les bases légales. Et moi, je pense, par exemple, il existe les curateurs de représentation pendant une procédure hein, devant l'APA qui a exactement ce rôle de facilitateur qui informe l'enfant, qui demande sa volonté, qui interprète aussi, qui essaie de pousser la procédure pour que ça dure pas trop longtemps, pour qu'il y ait une perspective dans le temps, tout ça. Et la même chose, ce sera bien de voir pour la personne de confiance, sauf, voilà, comme je vous ai dit, la loi a plutôt prévu un rôle plutôt passif, donc de écouter, d'accompagner peut-être, mais pas tellement être facilitateur. Et c'est là la question, est-ce que on peut définir un rôle plus actif dans cette direction, comme vous avez dit? Moi, je trouve ce mot facilitateur très, très bien.
Vous savez, un des problèmes que nous avons vécu, c'est que notre enfant, il était plus jeune à ce moment-là, à un moment donné, a été aussi écouté par une instance juridique qui souhaitait en fait prendre en considération son avis pour l'organisation des visites. L'instance genevoise a mandaté un pédopsychiatre. Alors l'enfant s'est exprimé avec une certaine réticence parce que la confiance qu'il avait vis-à-vis de nous, etc. Mais après, expliquer à l'enfant que ce qu'il a pu exprimer n'a pas pu être transposé dans les faits, c'était extrêmement négatif. Idéalement, c'est bien le rôle du curateur qui a ce rôle-là. Dans les faits, sur le canton de Genève en tout cas, ils ont beaucoup trop de dossiers. Ça n'a rien à voir avec la volonté, la compétence, le profil, etc. C'est juste qu'ils sont surchargés.
Ouais. Alors moi, je vois, quand on entend un enfant, il faut toujours, d'abord, en avant, expliquer quel rôle joue l'enfant dans cette audition. Il va s'exprimer, il peut souhaiter, mais que quelqu'un d'autre va prendre une décision peut-être contre sa volonté exprimée. Et que c'est justement le rôle du juge à considérer beaucoup, beaucoup plus. Donc, nous, on utilise souvent l'image d'un puzzle. Donc, l'opinion de l'enfant, c'est une grande partie du puzzle, hein, qui est important. Autrement, on n'a pas une image complète, mais il y a beaucoup d'autres aspects à considérer. Et donc, ce sera peut-être pas selon son avis. Et ça, c'est hyper important d'expliquer avant l'audition de l'enfant pour que l'enfant peut décider s'il veut s'exprimer et qu'est-ce qu'il va dire. Et moi, je crois que là, les pédopsychiatres, peut-être, ils voient pas le tout. Ils voient juste leur rôle comme experts d'écouter l'enfant, mais ils s'expliquent pas dans quelle situation l'enfant se trouve, que son opinion n'est pas décisive. Je comprends très bien que ça c'est difficile quand on n'a pas cette explication, on va pas comprendre pourquoi on est écouté.
Bon, quelle que soit la personne, pour un enfant qui a moins de 10 ans ou qui a 5, 6, 7 ans, on peut pas parler d'une personne de confiance si la personne ne peut pas obtenir une modification ou une prise en compte de la vie exprimée pour l'enfant. Mais je vous ai bien compris, c'est un vaste débat.
C'est un vaste débat, en effet. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Gisela Kilder, en guise de conclusion, quelles vont être maintenant les prochaines étapes immédiates de cette étude?
Alors, pour moi, comme juriste, je vais attentivement lire les résultats de mes collègues de sciences sociales et de la psychologie qui ont mené ces interviews, qui vont faire ce sondage auprès des enfants placés. Et moi, je vais tirer les conséquences pour le droit, donc. Peut-être cette personne de confiance, voilà, quel rôle, quel devoir il peut prendre. Et puis, pour toute cette question de participation, et qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut pas. Voilà, c'est un peu ça, une bonne pratique. On est aussi à la recherche d'une bonne pratique.
Eh bien, vous souhaite une pleine réussite pour la suite de cette recherche à vous et tous vos collègues. Merci pour cette discussion passionnée et passionnante. Merci à vous aussi, madame et monsieur Knobloch, et tout bon à vous.